Vous écoutez France Culture.
Bonjour. N'ayez pas peur, madame. Non. N'ayez pas peur, pas de panique. Je mange pas les yeux des gens. N'ayez pas peur, je suis venu vous parler. On va.
Oui, ça fait mal tout de suite dans le rendez-vous. Ce soir sur France Culture, en cette période de vacances, il sera question de cinéma, de prise d'otage, de Monterland et même de tragédienne pour une émission enregistrée en octobre dernier avec Albert Dupontel qui signait 9 mois ferme, une farce physique entre une juge et un criminel qui explose sauvagement les mécanismes convenus de la comédie romantique, Benoît Lagan.
Et avec son film burlesque nourri par le cinéma documentaire de Raymond Depardon, Albert Dupontel poursuit une œuvre originale née il y a une vingtaine d'années avec un court-métrage désiré.
Sans oublier la programmation musicale de Mathieu Conquet, ce soir c'est Lou Marco et puis un inédit. Puis nous recevions aussi Michel Faux pour l'ensemble de son œuvre emphatique, portrait d'un comédien metteur en scène qui élève le maquillage au rang des beaux-arts, Manu Farine.
En phase et ornement, ou comment Michel Faux fait de la nostalgie du jeu grandiloquent une arme théâtrale et existentielle.
Mais d'abord on ouvre avec l'actualité culturelle, c'est le journal de la culture de Noël par Claire Maillot qui prend à la fois la place de Xavier Martinet et celle de Benoît Lagan. Bravo Claire! Bonsoir Claire Maillot.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de la culture. Au programme ce soir, retour sur un destin éditorial particulier, celui du célèbre écrivain italien Italo Calvino. Mais avant cela, un rapide tour d'horizon de ce qui a agité le milieu culturel depuis hier avec les brèves. Le son de Youssef Latif, le musicien de jazz américain, disparu hier soir à l'âge de 93 ans. C'était une personnalité mésestimée du jazz. Il avait pourtant initié John Coltrane aux musiques d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient. Saxophoniste, ténor, flûtiste, joueur de hautbois et de basson, il avait joué entre autres avec Dizzy Gillespie et Charlie Mingus. C'est avec la sortie de son album Jazz Mood en 57 qu'il imprime sa marque en rompant avec le bebop traditionnel pour flirter avec des sonorités indiennes. Il introduit dès lors dans ses compositions des instruments comme l'argol, une sorte de hautbois syrien, ou le shanai, une flûte indienne. Ces dernières années, il s'était un peu éloigné du jazz pour composer des sonates ou des symphonies influencées par Schoenberg, Debussy ou encore Ravel. Du côté du cinéma, on a appris la nomination de Serge Toubiana à la tête de la commission d'avance sur recette du CNC. C'est une commission phare de l'institution puisqu'elle décide du montant des aides accordées à la production cinématographique. L'actuel président de la Cinémathèque française prendra ses fonctions dès le 1er janvier prochain pour un mandat d'un an. Enfin, un bel acte de générosité en cette veillée de Noël, puisque ce sont plus de 800 œuvres d'art qui ont été données par le galeriste Jean Ferrero à la ville de Nice. Dans cette collection estimée entre 4 et 5 millions d'euros, on retrouve l'estafette de Ben ou encore le concerto de Pékin d'Armand. L'ensemble des œuvres sera exposé dans l'ex-forum de l'urbanisme de la ville.
Italo Calvino, venu ce soir accompagné de son traducteur, car je voudrais que cette émission d'apostrophe soit aussi un hommage rendu au travail discret, souvent méconnu, mais ô combien essentiel et difficile des traducteurs.
Italo Calvino, invité par Bernard Pivot en 81 dans l'émission Apostrophe, à l'époque où ses relations avec ses traducteurs et sa maison d'édition Le Seuil étaient encore apaisées. Mais depuis sa mort prématurée en 85, c'est un destin éditorial particulier qui s'écrit en coulisses. Tout se complique en 2009, puisqu'après une collaboration de plus de 50 ans entre la maison d'édition et l'auteur du Baron Percher, la famille de l'écrivain décide de confier les droits d'édition à Gallimard. Les romans déjà édités comme Le Vicomte Pourfendu ou Les Villes Invisibles sont envoyés au pilon. Il est alors impossible de les trouver en librairie. En cause, d'abord une politique éditoriale jugée contestable par ses ayants droit, avec des premiers romans que Le Seuil refusait de publier, ou encore des choix malheureux dans la composition et la notation de certains recueils. Autre sujet de discorde, des traductions jugées insatisfaisantes, peu fidèles aux vœux de l'écrivain. Selon sa fille, il estimait qu'après traduction, il ne restait au lecteur que 45% du livre original. De Daniel Salnave à François Valle, en passant par Jean Thibaudeau, ils ont été nombreux à se frotter à l'écriture de Calvino avec plus ou moins de bonheur. On apprenait récemment le nom du nouveau traducteur choisi par Gallimard, Martin Rueff. Il est poète et avait déjà édité l'œuvre de l'écrivain italien Cesare Pavese, celui-là même qui avait poussé Calvino à écrire. L'occasion donc de revenir avec lui sur le défi que représente cette nouvelle traduction.
Calvino a dit souvent, et notamment dans un texte consacré à la traduction qu'il a prononcé dans les années 80, qu'une des questions majeures pour la traduction d'un grand écrivain italien, c'était la question du ton, de la tonalité. Et la tonalité de Calvino, elle est tout à fait particulière, et je crois que si vous parlez de défi du traducteur, c'est la question de la tonalité qui constitue aujourd'hui pour moi le grand défi de la traduction de Calvino, parce que il est constamment, si vous voulez, entre une espèce de désespoir lucide et un goût de la précision. Il le dit lui-même dans des termes assez élégants, en disant qu'il essaie de conjurer la violence du romantisme par le refroidissement du classicisme. Et peut-être que, disons que cette métaphore thermique représente le véritable défi du traducteur, c'est-à-dire qu'il faut être à la fois très chaud et très refroidi. Voilà, c'est ce que je dirais.
Certains traducteurs, je pense notamment à Roland Stragliati ou Nino Franck, ont donné à l'écriture de Calvino un ton familier. Ça leur est d'ailleurs reproché par la famille de l'écrivain. Quel est votre regard sur ce parti pris, Martin Rueff ?
De fait, Calvino, c'est un écrivain qui commence à écrire au sortir de la Seconde Guerre mondiale, comme un écrivain néo-réaliste, ou réaliste, disons. Hein. Et il a toujours été extrêmement attentif à l'italien tel qu'il se parlait. Pour donner, si vous voulez, des équivalents, c'est quelqu'un qui écrit dans les mêmes parages que Pavese ou que Natalia Ginzburg. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui tourne le dos, évidemment, à la culture populaire. Mais Calvino n'a cessé de dire qu'il concevait le travail d'écriture, justement, comme une recherche de la précision. Hein, il a même des mots très, très durs contre les traducteurs qui traduisent ces termes les plus précis par des images vagues. Et je crois que la question de la familiarité, elle rentre dans ce registre. C'est-à-dire que très souvent, on a essayé de rendre le lexique parlé de Calvino par un lexique relâché. Or, dans Calvino, quand on le lit en italien, c'est vraiment pas l'impression qui ressort. Et notamment dans des textes qui sont des textes qui ont trait à la culture populaire, comme Marco Valdo ou comme Palomar, il ne s'agit jamais, en effet, d'un langage familier.
Et il faudra attendre 2015 pour découvrir cette nouvelle traduction. En attendant, vous pouvez toujours vous procurer la célèbre trilogie Nos Ancêtres, dans les versions de l'époque, révisées par Mario Fusco. Il est 19h10 sur France Culture, l'heure de retrouver Laurent Goumard et ses invités Michel Faux et Albert Dupontel pour une émission féconde ce soir.
La fécondation a eu lieu il y a environ 6 mois. Oh,
19h20.
J'ai bien compris. Vous êtes une très bonne juge. Et là, ça m'intéresse. Leur histoire d'agression et de bouffage des yeux, j'y suis pour rien.
Le rendez-vous,
c'est un accident.
C'est sur France Culture.
Vous êtes à combien de mois ?
5.
Normalement, c'est combien ?
Bah, 9.
Bah, 9, ça va, je suis pas une fille, je connais pas tous les trucs. Bah, je vous colle 4 mois ferme. Voilà. Pendant 4 mois, vous restez ici. Et croyez bien qu'au vu des faits reprochés, c'est un verdict de clémence. Vous la connaissez aussi, cette phrase ? Moi, je la connais bien. Ce verdict est négociable aux conditions préalablement énoncées. Ça veut dire que si vous m'aidez, voilà. Bon, allez hop. La promenade est 2 fois par jour et les repas sont à heure fixe. La connaît bien aussi cette phrase.
C'est un verdict de clémence, j'adore cette phrase. D'abord, première question, où est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux, Albert Dupontel et Michel Faux ? Michel Faux qui est un acteur dans plusieurs films.
C'était pas hier, malheureusement, mon cher Michel. C'était à nos tout débuts. J'ai connu Michel à 20 ans, il était pratiquement le même d'ailleurs. Et c'était chez un monsieur qu'on aime beaucoup, c'est Yves Pignot, qui était notre premier cours de théâtre. Cette école s'appelait Léda, l'entrée des artistes, avec un jeu de mots, forcément Léda. C'était rue du Roi de Sicile. Et je me rappelle avoir découvert Michel qui se présentait devant nous en disant j'ai 20 ans, je m'appelle Michel Faux, je vais être metteur en scène de théâtre. Et tu as présenté un extrait de La cantatrice chauve de Ionesco. Oui. Très impressionné par la détermination du jeune Michel Faux.
Et Albert, pareil, à l'époque, il était surdimensionné. C'était un acteur surdimensionné, c'était un acteur shakespearien en fait. Et puis après, il est entré à l'école nationale de Chaillot et moi, je suis rentré au conservatoire. Voilà.
Alors, on va voir ce parcours de chaque côté. Plateau physique avec vous, Albert Dupontel, comédien, cinéaste. Un parcours qui commence sur scène d'abord par le one-man show au début des années 90, puis passage à la réalisation avec Bernie, le créateur, Enfermé dehors, Le Vilain, 9 mois ferme. On vient d'entendre un extrait. L'histoire en 2 mots, hein, c'est une juge d'instruction célibataire et très endurcie, Sandrine Kiberlin, qui se retrouve étrangement enceinte. Et à peine découvre-t-elle son état qu'elle est prise en otage par un atroce criminel qui bouffe les yeux de ses victimes. C'est vous, Albert Dupontel. Et ce dernier attend de la juge qu'elle mette à jour son innocence. Le point de départ, en fait, c'est un documentaire de Raymond Depardon, 10e chambre, instant d'audience. Qu'est-ce qui vous a choqué et ému, hein, ce sont vos termes, dans ce film, au point de vous en être inspiré pour écrire ce 5e long
métrage ? Depardon m'a inspiré, mais ce n'est pas une influence, on est d'accord. Hein. Il est aussi sobre que je suis outrancier, donc il n'y a pas de problème. Mais il y a dans le documentaire de Depardon, comme beaucoup dans ses films, il y a une galerie de personnages, tous plus pittoresques les uns que les autres, ou en couleur, et des situations au quotidien que, heureusement, je ne connais pas, puisque ça se passe dans un tribunal correctionnel. Et je trouve à la fois on a envie de rire, à la fois on a envie de pleurer, on trouve ça pathétique, fascinant, violent. Voilà, donc en sortant de là, l'idée d'une histoire d'amour improbable entre une juge et son jugé me dit ça serait un coup à faire, entre guillemets. Voilà.
Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la juge filmée par Depardon dans le documentaire, c'est la juge d'instruction Bernard Requin. Alors, absolument. Déjà, on se dit c'est ça pas possible, peur, oui. Ça fait déjà peur, quoi. Un nom de fiction presque de BD. Et vous lui avez demandé d'être conseillée sur le film. Quelle remarque précise elle vous a donnée, justement, quant à la crédibilité de ce que vous présentiez?
Très précisément que rien n'était possible. Et très, très calmement, je lui ai dit qu'on s'en foutait, qu'on allait passer outre. Alors, il y a quelque chose quand même que j'ai rectifié, quelques vocables qu'elle m'a donné, dont je me suis inspiré. Mais c'est vrai que le public est attentif à une vérité émotionnelle, mais pas forcément une vérité narrative. Donc je me suis passé outre. Mais en sortant de ce documentaire de Depardon, moi j'étais très en colère contre la juge Bernard Requin. Quiconque l'a vue ne peut sortir qu'en colère contre elle, parce qu'elle s'en prend à notamment un pauvre sociologue qui veut se défendre tout seul. Et quand on la rencontre, on nuance forcément son propos. J'ai rencontré une pure Ariane Felder, alias Sandrine Kiberlin, avec cette femme qui est trouvée beaucoup plus fragile et sensible que le documentaire ne laissait penser.
Je me demandais si le cadrage du film de Raymond Depardon vous a inspiré pour cadrer par exemple les lieux de justice, la salle d'audience ou la juge assis derrière son bureau.
Là, pour le coup, non.
Rien du tout.
Non, rien du tout. Là, c'est ma grand-mère à moi. Elle est volontiers outrancière. C'est souvent décadré, d'ailleurs. C'est souvent débulé. C'est des fois qu'elle court. Il y a une fantaisie dans ce que j'essaye de filmer qui n'a rien à voir avec la sobriété d'un Ken Loach ou d'un Depardon, qui, eux, mettent le doigt sur une vérité. Et cette vérité, c'est un terreau pour les grands guignols comme moi qui aiment bien s'en inspirer. On n'a pas d'effort à faire. On n'est pas encombré par soi. On va voir un film. Et tout coup, on voit des personnages qui sont spectaculaires et qui sont vrais. Il n'y a plus qu'à les prendre, à leur mettre un nez rouge en quelque sorte, convoquer quelques grands acteurs comme monsieur à côté.
Qui joue le rôle de gynécologue.
Voilà, qui joue. Non, pas gynécologue, un échographiste.
Un échographiste.
Très différent,
ouais.
Très différent.
Mais je suis un garçon, je ne peux pas savoir non plus.
Et voilà, et le tour est joué, voilà.
Benoît Lagan.
Alors, le film est un brillant jeu de massacre, très visuel. Les personnages se cognent, se prennent des objets sur la tête, ça hurle dans une esthétique qui pourrait être presque gore à certains moments du film. On a aussi un avocat bègue, bref, une humanité au bord du drame, mais qui produit le rire par la violence. Et je sais que vous refusez le terme de comédie. De quoi vous méfiez-vous dans ce terme-là?
Pour le temps qui court, c'est un terme péjoratif. La comédie dite de surcroît à la française, c'est un casting de comédie, c'est pas le cas de Sandrine et moi. Ce sont des pitchs de comédie avec des enjeux souvent qui sont très bénins. Et puis, c'est des budgets de comédie. La productrice qui est là peut en témoigner, c'était pas du tout un budget de comédie. Donc voilà, ça devient un mot un peu péjoratif. Donc je préfère parler de drame rigolo, ou je préfère que les gens me disent, vous savez, votre film, on s'est bien amusé, parce qu'effectivement, on se donne beaucoup de mal pour ça. Mais on peut pas dire qu'on part, comme pour Bernie d'ailleurs, hein, l'histoire d'un orphelin qui a pas de nom et qui va bouffer des canaries. Quand vous racontez ça à un producteur en disant, ça va être drôle, il a tendance à douter un petit peu de votre santé mentale. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des tas de nuances. La comédie, ça va de Chaplin à Max Pécasse. Donc laissez les grands guignols s'exprimer librement. Voilà.
Michel Faux, comment vous a-t-il présenté le film et votre rôle ?
Albert, je le dis, à chaque fois qu'il a fait un film, il m'a proposé d'être dedans. Alors après, je pouvais ou je ne pouvais pas le faire. Mais même, je me souviens, le premier court-métrage, tu m'avais proposé d'être...
Désiré ?
Oui, j'avais pas su. Mais non, c'est vrai, il est très fidèle aux acteurs. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne suis pas...
Non, tu n'es pas un bon acteur.
Non, c'est un acteur pourri, même.
Non, mais je tourne très peu, donc voilà, je ne fais pas partie de la famille du cinéma, je ne crois pas. Et en fait, il m'a toujours proposé... Mais à chaque fois, quand je peux le faire, j'accepte les yeux fermés, il n'y a pas de souci.
Qu'est-ce que vous allez chercher chez Michel Faux, Albert Dupontel? Même pour le premier, donc même pour Désiré.
C'est pas parce qu'il a, moi, je vous ai raconté la première fois que je l'ai vu, c'est un mec qui a beaucoup de talent, qui m'a toujours impressionné. Je suis très client de Michel Faux, j'ai été le voir sur scène à plusieurs reprises. Son récital m'a fait pleurer de rire, j'ai dû le voir deux fois. Voilà, j'aime beaucoup le personnage, ce qu'il fait, ce qui empêche qu'on se voit peut-être deux fois par an ou au téléphone. Mais c'est pas un proche, mais c'est quelqu'un dont je suis très client dans son travail, aussi bête que ça. C'est pas une organisation caritative, un plateau de télé. Hein. C'est pas parce que c'est des copains, il y a tas de gens qui étaient à l'EDA. Je suis content de croiser de temps en temps, mais je les mettrai jamais sur mon plateau. Mais c'est vrai, mais Michel, et voilà, je suis depuis le départ et je suis sa progression avec attention et admiration depuis longtemps.
Il y a aussi Terry Gilliam des Monty Python qui fait une apparition dans le film. Qu'est-ce que représente son cinéma pour vous? On vous sait absolument fan, bien sûr, de Brésil, de Las Vegas.
Par exemple, plus que ça, c'est plus que ça. C'est que avant, quand j'ai vu Brésil, j'étais en plein doute social. J'étais encore étudiant en médecine à l'époque. Il y avait dans ce film tous les cauchemars et tous les rêves de mon existence. Il y a les Monty Python, je connaissais bien sûr en tant que humble consommateur. Il me faisait beaucoup rire, sans forcément que j'en voie d'ailleurs les arcanes souterrains de ce qu'il racontait.
C'est-à-dire quels étaient les arcanes?
La vie de Brian, je me rappelle les gags, mais après, je me suis rendu compte que j'avais 15 ans quand je l'ai vu. Je me suis rendu compte qu'il parlait de la vie de Jésus, la Bible, la religion en général. Un sujet qui est encore d'actualité aujourd'hui. Le ridicule de la religion n'est d'égal que la vie de Brian encore 40 ans après. Mais dans Brésil, c'était beaucoup plus flagrant. Les intentions de Terry sont très fortes. Le monde dont il parle est un monde terrifiant et je pense dire qu'on se dirige tout doucement vers ce monde-là. Et j'avais été fasciné. J'ai dû voir trois fois dans la semaine. Et c'était à un moment donné où je commençais un petit peu à me faire rare dans les salles d'hôpital. Voilà. Donc Brésil, et puis d'autres, il n'y a pas que ce film. Et donc du coup, quand j'ai rencontré Terry une dizaine d'années après, en 2000 exactement, j'ai présenté le créateur à Londres, et qui m'a demandé comment je faisais certains plans, j'étais limite au bord des larmes. Et c'est un visionnaire, c'est un prophète, c'est un mec qui a beaucoup de choses à raconter, énormément. C'est quelqu'un que j'admire et que j'aime beaucoup. Voilà.
Il parlait de quel plan précisément? Qu'est-ce qu'il voulait savoir?
Il y avait un plan, il supposait que j'avais mis deux décors l'un sur l'autre dans le créateur. Il y avait, alors que je faisais des petits raccords très artisanaux, en faisant des. Par exemple, il y avait des dossiers de chaises que j'augmentais artificiellement et la caméra en passant dans le dossier de chaises fait des plans de coupe. Et Terry, mais aussi à cause du gigantisme de Hollywood, puisqu'il est très inventif, hein, comme cinéaste, mais à cause de ce gigantisme d'Hollywood auquel il est confronté, pensait que j'avais superposé deux décors. Voilà. Et en fait, c'était le même.
D'ailleurs, j'ai pu dire que c'est en hommage à Terry Gilliam que vous avez réalisé votre premier court-métrage, oui, Désiré. Quel était le sujet précis de ce film et qu'est-ce que vous lui avez emprunté?
C'est-à-dire, quand on a conscience d'emprunter, on n'emprunte rien. Il y a une influence qui est évidente, mais c'était entre guillemets mon petit Brésil à moi. Voilà, j'ai dit, je vais faire un truc de SF absolument déviant. Et Désiré, c'est un bébé qui naît dans le futur, à une époque où les naissances sont programmées par ordinateur. Or, ce bébé a la malencontreuse idée de naître un petit peu avant, donc personne ne le voit naître. Voilà, alors ça peut être un sujet de fiction classique, mais là, c'est un court-métrage, et plus exactement un métrage court. Tous mes éconocroques du spectacle étaient passés dedans. Et donc voilà, ça racontait ça. Donc il y avait déjà tout un cinéma que j'avais perçu chez lui. J'essayais de regarder, pas de copier, mais de m'en inspirer pour faire des choses personnelles. Et donc les focales courtes, hein, une certaine couleur de photographie, les décors un peu, les caméras qui sont au-dessus, etc. C'était un cinéma que j'aimais. Et c'était une petite façon. Hein, je crois qu'il l'a jamais vu d'ailleurs, Terry, ce court-métrage. Je vais lui montrer.
Ça fait peut-être un peu question Psychologie Magazine, mais il est question beaucoup de l'enfance dans vos films. Et puis notamment aussi donc, des bébés, puisque le dernier, c'est aussi le cas.
Dans le prochain aussi.
Et dans le prochain aussi.
C'est très inquiétant.
Alors, la question de Psychologie Magazine, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là pour
rien, vous rien. Je pense que c'est le moule de l'enfant que vous avez été, continue à vivre chez vous. Et c'est fatigant de vieillir parce qu'on essaie de donner le change avec des costards-cravates, des mines sérieuses avec des rides. Mais je pense que l'enfant qu'on a été meurt jamais, en fait. Et le gamin que j'étais à 15 ans est encore le même aujourd'hui. Donc, j'essaye de prendre un air respectable.
J'arrive pas à voir l'enfant que vous étiez à 15 ans. Il y a beaucoup.
Pareil,
pas à 15
rides,
ans, on n'est plus un enfant.
Bah, mais si, largement.
À 15 ans,
on croit qu'on a une apparence d'homme ou de femme, mais on est encore un enfant, bien sûr. Non, mais je pense, voilà, donc c'est fondateur dans notre vie. Et on passe son temps soit à chercher à retrouver l'enfant, soit à lutter contre ça si elle était désagréable. On n'est que le fruit de notre enfance, voilà, tout simplement. Et vous parlez de Terry Gilliam ou de Chaplin, ce sont des gens qui sont éminemment dans l'enfance, dans leur travail, c'est évident.
Benoît Lagan. Alors, pour tenter de réinventer, Albert Dupontel, votre cinéma, notre réalisateur Nicolas Berger a recomposé en 1 minute 30 votre parcours de cinéaste-comédien ou comment Dupontel, faux vilain, ne peut s'empêcher de jouer au monstre pour créer montage.
Alors voilà.
C'est moi.
Il s'agit d'une histoire.
Laissez-moi.
Il s'agit plus d'un concept.
Laissez-moi,
d'histoire.
Laissez-moi.
En fait, j'ai jamais réussi à savoir vraiment ce qui s'était passé à ma naissance.
Voilà, ça a peut-être piqué un peu au début.
Ça fait plusieurs années que je demande mon dossier à l'administration, mais ils m'ont jamais donné.
Alors pourquoi?
Ils disent que c'est pour mon bien. Je vais être un criminel.
Mais j'ai pas rien. Je suis maudit.
Je suis pas vraiment genre de fils. Dont on se vante.
Enfin, mais qu'est-ce qui se passe?
T'es tombé tendre, mais les oiseaux, c'est les becs.
Voilà, je comprends pas, je ne sais plus faire. Pourquoi je suis toujours obligé d'être méchant? Je comprends pas, je ne sais plus faire. Oh là là, il peut continuer.
Maintenant, c'est.
De toute façon, je n'ai rien à foutre, je suis fou.
C'est comme si j'étais deux.
Bon, vous l'avez tous deviné, en fait, il s'agit d'une rencontre.
Moi, je fais le mal.
Je peux vous offrir du thé?
Mais bien.
T'as de la chance d'être tombé sur quelqu'un qui est gentil, c'est tout.
Ah, je serais toi maintenant, je vais t'aider tranquille.
Je le ferai plus.
C'est normal, je suis puni, c'est bien fait.
J'en ai rien à foutre.
Quand je suis gentil, tu râles aussi. Là.
T'imagines pas à quel point j'en ai rien à foutre.
T'as rien compris, moi, je suis complètement perdu, complètement confus.
Je sais plus où j'en suis.
Ça va être de plus en plus émouvant.
Tu comprends? Moi, mon truc, c'est de créer.
Ça va peut-être piquer un peu au début.
Un peu comme Dieu.
Ah, mais tant mieux. Ah, bah c'est bien.
Mais est-ce que tu crois pas que Dieu.
T'imagines pas à quel point j'en ai rien à foutre.
Pour créer, il a dû faire des choses terribles.
C'est par hasard si c'est le chef d'ailleurs.
Donc nous, si on veut créer, peut-être également on doit faire beaucoup de chaos.
On veut moins malin maintenant. Hein? On fait moins malin.
Je vous vois même rire, vous êtes complètement dingue.
c'est le montage de votre collègue qui me fait marrer. Non, tout ce chaos est très. Et soigneusement pensé et mis en forme.
Donc on entendait justement Bernie, le créateur, enfermé dehors, le vilain, et Désiré, votre premier court-métrage. Et chaque fois, on retrouve cette figure donc, du vilain que vous travaillez depuis vos débuts, même dans le One Man Show, il y a donc une vingtaine d'années. Qu'est-ce que ce personnage vous permettait? Comment est-il né?
Et moi, je trouve qu'il n'est pas vilain. C'est un mec qui est perdu, voilà, comme on l'est tous autour de cette table, d'ailleurs, mais peut-être que lui, il ne le sait pas. Mais non, voilà, c'est un être immature, infantile, décalé, naïf, profondément gentil, mais qui est assez fascinant par ses impulsions. Et la première fois qu'il est venu, c'était dans un camp de vacances où j'éructais mes sketchs contre quelques monnaies trébuchantes en 90, il y a 23 ans maintenant. Et je sais que ça a bien plu aux gens. C'était assez touchant, ce camp de vacances, parce que c'était tellement sommaire, les moyens du spectacle, que le type, pour faire le noir entre les sketchs, faisait sauter les plombs de tout le camp de vacances.
On est loin de chez Joël Pommerat.
Je vous assure que c'est vrai. Et on entendait dans le noir le type de la buvette qui disait « Faites chier, rallumez, ça décongèle voilà. !» Et donc c'est dans cette ambiance-là que j'éructais mes sketchs. Voilà. Et ça se passait plutôt pas mal. Hein. C'était dans le Cantal, un camp assez improbable. Et à un moment donné, les gens ont poussé le vice jusqu'à me demander un rappel. Voilà. Et je n'avais pas de rappel. Non, j'avais... Et j'avais vu ce fameux film Rambo, donc je suis parti. J'avais raconté d'ailleurs ce film à des copains à l'époque, j'étais chez Vitesse. Ils m'avaient dit « T'as qu'à en faire un sketch que j'avais pas écrit. » Je suis parti du fond de la scène, petite scène, et je suis arrivé devant les gens. J'ai raconté ce film avec les moyens du bord et avec ce personnage justement décalé, naïf, un peu perdu. Et puis ma foi, ça a beaucoup plu. Je pense qu'ils se sont beaucoup retrouvés dans ce personnage peut-être. Enfin voilà, c'est né comme ça. Puis après, j'ai un peu cultivé le vice.
Vous parliez des cours justement d'Antoine Vitesse que vous aviez au départ à l'école du Théâtre National de Chaillot. Qu'est-ce qu'il a pu représenter dans votre formation?
C'est une bonne question. Ça, c'est à la fois quelque chose que je ne voulais pas devenir. Et en même temps, quelqu'un dont l'enseignement était précieux. C'est très curieux. Je ne voulais absolument pas faire ce qu'il faisait. Je ne voulais absolument pas finir dans ce circuit de théâtre, mais pas du tout. J'avais été au même moment passer un petit temps chez Mouchkine. Ça m'avait ébloui. En 10 jours, j'ai plus appris qu'en 2 ans avec Antoine. Parce qu'il y avait chez Mouchkine, il y a une vie absolument hallucinante dans laquelle je m'étais accroché comme un fou furieux. Chez Antoine, il y avait un dialogue d'idées. Il y avait une gamberge intellectuelle, mais au sens un peu péjoratif du terme, n'ayons pas peur des mots, qui me faisait très très peur, des choses que je ne comprenais pas du tout. Et en même temps, il était fascinant d'intelligence, fascinant de psychologie et de culture. Donc c'est surtout sa culture en fait qui m'intéressait. Il parlait 5 langues, il pouvait parler de tas de pièces que j'avais pas lues et que je m'efforçais de lire le plus possible. C'était un réservoir à culture, mais ses idées m'intéressaient pas plus que ça. Je le dis sans méchanceté aucune, hein. C'était un être fascinant. Mais pour le jeune mec que j'étais à l'époque, il a trouvé plus d'énergie, de vie justement chez Mouchkine, dont j'aimais beaucoup la gamberge. Ariane disait le théâtre se vide, on s'ennuie. J'adore ça. On peut pas la soupçonner d'être une boulevardière dans son travail, mais qu'elle attaque n'importe quel travail. Il fallait toujours que le public ne s'ennuie pas. Elle disait une phrase terrible quand on n'arrivait pas sur le plateau. Elle disait « Vous n'avez pas le son minimum ». Et c'est une phrase redoutable parce qu'elle écartait justement celui qui faisait une tentative d'improvisation, elle l'écartait de la scène. Et ces 10 jours-là avec Ariane m'ont plus appris que le passage chez Antoine. Mais j'ai vu aussi, grâce à Antoine, ce qu'était une forme de théâtre assez spectaculaire, assez sur le plan intellectuel, sur le plan de la culture justement, auquel j'étais un peu réfractaire, mais je le regardais avec beaucoup de fascination, ce personnage Vitesse.
Est-ce que vous aviez déjà cette diction à l'époque cette rapidité dans l'élocution?
Peut-être. Faut interroger mes profs de l'époque. Ouais. J'ai beaucoup de choses à dire, c'est pour ça que je parle vite.
Non. Et pendant cette période-là, vous débutez au cinéma par des tout petits rôles dans un Paul Vecchiali, encore en 1988, ou encore la bande des 4 de Jacques Rivette. Quel souvenir vous gardez de ces premières expériences cinématographiques?
Le montant du cachet.
De tête formidable, comme une chanson de Stromae.
Non, mais Vecchiali, c'est un mec extrêmement gentil et tout. J'étais un peu perdu, je vous cache pas, dans son cinéma. Et puis la bande des 4, je me rappelle d'une scène de bagarre qu'on devait faire pour Rivette, qui était tout sauf un metteur en scène physique. Et à la deuxième claque échangée, il a dit c'est parfait, très bien, etc. Et je me rappelle que j'avais gagné 500 francs. Voilà, j'étais drôlement content parce qu'avec ça, je vivais 6 mois à l'époque.
Vous évoquiez, on pourrait évoquer plutôt Capra comme référence, par exemple, pour Le Vilain. Et ce cinéaste est aussi une référence pour les frères Cohen dont vous admirez le travail. Quel spectateur est-ce que vous êtes de ces films les plus moraux, comme La vie est belle ou L'homme de la rue ou encore l'extravagant Monsieur Deeds? Parce que j'ai l'impression qu'il y a cette dimension-là, par exemple, enfermé dehors.
Il faut remettre dans le contexte. C'est-à-dire que l'extravagant Monsieur Deeds ou Monsieur Smith va au Sénat, qui sont un peu les mêmes d'ailleurs, ouais. Pas peur des mots, c'est vraiment des films faits pour le New Deal de Roosevelt, dont il était très proche. Donc si on les remet dans ce contexte-là, on pardonne le côté propagande et morale. Toujours est-il qu'il y a une performance d'acteur, c'est James Stewart, que je ne dis pas de bêtises, oui. Qui est ce long discours qu'il a, il ne s'arrête pas, parce que s'il s'arrête, on lui prend la parole et c'est foutu. Ça, c'est prodigieux. C'est, sur le plan dramaturgique et cinématographique, c'est très intéressant. Voilà. Après, bien sûr, on peut dire effectivement, c'est prêchi-prêche. Il a tout à fait raison de dire ça, mais c'est vraiment une période particulière et c'est notamment grâce au cinéma de Capra que l'Amérique a repris confiance en elle, en tout cas en sa culture.
Et vous, qu'est-ce que ça peut représenter pour vous?
Le savoir-faire d'un grand cinéaste, voilà, la façon de diriger les acteurs, ses idées de scénario, etc. Je n'ai pas de jugement, bizarrement, j'aime ou j'aime pas, c'est tout. Quand j'aime pas, je ne dis pas que c'est mal, sauf que ça ne m'intéresse pas.
Vous parlez de la façon de diriger les acteurs, quel directeur d'acteur êtes-vous, vous?
On va demander à Michel Faux.
On va lui demander justement. Michel Faux, quel directeur d'acteur?
Albert, il connaît les acteurs puisqu'il est acteur. Il y a beaucoup de réalisateurs qui ne sont pas acteurs et qui ont peur des acteurs. Lui, il n'a pas peur des acteurs. C'est pour ça qu'il va chercher beaucoup d'acteurs au théâtre, je pense. Il n'a pas peur de l'extravagance. Et ça, déjà, c'est rare. Et puis, il a des goûts très particuliers. Il a toujours des distributions très, 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 très étranges et hautes en couleurs. Et en même temps, il est très, extrêmement précis. Il est presque, je dirais, psychorigide ou maniaque. Il sait exactement ce qu'il veut. Il y a quelque chose de musical, en fait, dans sa direction, comme un chef d'orchestre. D'ailleurs, ses films sont montés comme des opéras, je trouve. Ça avance, quoi. C'est pas un cinéma installé, quoi.
Aucune improvisation possible ?
Non, pas avec moi, mais je pense qu'avec d'autres acteurs sûrement.
Dans Neuf Mois, si, il y en a eu. Hein. Et dans Neuf Mois, c'est la scène du berceau à la fin qui est entièrement improvisée avec Sandrine. Et pendant longtemps, je ne pensais pas à la monter. Et puis le fait d'avoir testé un petit peu ça en province, bien avant la fin du montage, j'ai trouvé que cette scène était assez comestible et finalement, elle rentrait bien dans le tableau du film. Mais c'était une scène d'improvisation sur les prénoms. Kevin et Steve, c'était pas du tout écrit. Voilà.
On parlait de Capra, mais vous citiez tout à l'heure Charlie Chaplin. Quel film vous a marqué plus particulièrement ? Et qu'appréciez-vous dans son rapport au burlesque et par exemple par rapport à d'autres auteurs, d'autres contemporains de Chaplin comme Keaton ou Lloyd ?
Chaplin, pour moi, c'est le seul classique du cinéma. Il raconte des histoires tristes en étant franchement distrayant et forcément émouvant à la fin, parce que c'est une histoire triste. Et le film le plus fort de lui, c'est Lumière de la ville. Je peux le revoir 10 fois, la scène à la fin, chaque fois j'ai les larmes aux yeux. Voilà, donc il y a Shakespeare, il y a Molière, puis il y a Chaplin au cinéma. Vraiment, je le dis sans pudibonderie. Voilà, c'est un fait. Et ce qui me plaît, c'est qu'il raconte des histoires vraiment fortes, très fortes. Regardez le début des temps modernes. On a un troupeau de moutons qui est un fendu enchaîné sur des gens qui rentrent dans le métro. On est en 1936, époque du Front populaire et de la révolution industrielle partout, un petit peu dans les pays civilisés. Et Chaplin, de façon détournée, rieuse, moqueuse, mais très compassionnelle, raconte ce monde-là. Je trouve ça magnifique. Voilà, je suis pas très original de dire que Chaplin, c'est bien. Mais je m'y réfère souvent. Je revois souvent son travail. The Kid est un film bouleversant, je trouve. Voilà.
Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que vous aviez projeté le film dans je crois que c'est une vingtaine de salles test.
Hein. 15 villes, en effet. Ouais.
15 villes, ce qui vous a permis d'ajuster des choses au montage, j'imagine. Qu'est-ce que vous avez remarqué lors de ces projections ? Parce que ça vous a poussé à couper 2 minutes 30 du film. C'est pas énorme, mais justement, qu'est-ce qui s'est passé ?
Au stade final du montage, c'est énorme. 2 minutes 30, c'est phénoménal. Ben, tout d'un coup, il y a une phrase de Billy Wilder qui dit que le spectateur tout seul est bête, mais ensemble, il est du génie. Donc tout seul dans ma salle de montage, j'étais très con. En plus, spectateur de mon propre film. Et j'avais 100, 150 personnes. Et tout d'un coup, vous avez une oreille archi développée. Et le rythme du film vous apparaît comme aveuglant. Alors que c'est un rythme que vous avez un petit peu perdu, c'est trop près de ce film. Donc une écoute, des scènes auxquelles je tenais qui en fait n'étaient pas nécessaires, je les ai retirées, des rires qui ne m'intéressaient pas comme les postillons de Maître Trollos, alias Nicolas Marié. Je ne veux pas que les gens rigolent dessus, je veux qu'ils rigolent sur sa plaidoirie. Donc j'ai coupé ces postillons, très facile à faire en numérique, et une pléiade d'informations comme ça qui serait trop long d'expliquer ici, mais je notais précieusement, et je poussais le vice jusqu'à faire dire à l'exploitant que j'étais en retard et que je ne pouvais pas être là ce soir, mais je serais là à la fin pour répondre aux questions, alors qu'en fait j'étais soigneusement caché dans la salle, et juste à côté des spectateurs, dans le noir, et je prenais des notes, c'était très très instructif. Voilà.
Il y a des rires qui vous gênent ?
Oui, il y avait bien sûr. Il y a eu quelques salles en province qui étaient très extravagantes, c'est chaleureux, mais tout d'un coup, quand la scène où Sandrine réalise qu'elle est l'alibi de Bob, elle donne un coup de tête dans le miroir, les gens rigolent. C'est franchement dommage parce que c'est pas du tout une scène drôle, c'est une scène au contraire. Le film peut vous échapper soit par l'inhibition des spectateurs, soit par une extraversion. Dans les deux cas, il y a un juste milieu. Et le spectacle, j'ai vécu ça souvent. Il y a des soirées, j'étais furieux de jouer parce que c'était trop. Vous voyez, c'est bizarre, hein, la perception qu'on peut avoir des choses. Faut pas parce que les gens rigolent qu'ils ont raison.
On parlait du montage, mais ce que vous aimez beaucoup aussi dans le processus de création d'un film, c'est le moment de préparation et en particulier le découpage, car c'est là que vous faites vos plus grandes trouvailles de mise en scène. Quelle place vous accordez par exemple au storyboard ? Parce que je crois que pour Le Vilain, vous aviez plusieurs versions de storyboard, voire même vous aviez demandé une bande dessinée.
Dans tous mes films, je fais des storyboards, d'autant plus maintenant j'ai un peu plus de sous qu'avant. Et alors c'est des scènes très particulières, c'est tout ce qui est les scènes dites d'action, ou les scènes d'effets spéciaux, ou les scènes de trucage, etc. Ça, c'est des scènes qu'il faut bien dessiner, c'est un moyen de communication par rapport au technicien qui est très fort. Tout ce qu'on dit ou tout ce qu'on écrit, ils n'en veulent pas. Donc le dessin, il est très clair. Mais si on concerne les acteurs, je ne fais pas storyboard. Ça serait dommage de bloquer Michel dans des marques, dans des places précises. Faut aussi, vous allez chercher aussi pour son inventivité. Et ce qui est intéressant, c'est de prendre un dispositif où un acteur comme Michel va pouvoir inventer ce qu'il a envie de faire. Voilà. Donc le storyboard, j'ai des jolis storyboards avec le temps. C'est une petite œuvre d'art, entre guillemets. Mais ils sont, des fois, je les regarde avec nostalgie, mais il y a des plans. Souvent, ils sont assez respectés, d'ailleurs. Voilà.
Le fait de retourner sur scène, c'est quelque chose qui serait envisageable pour
vous ? Franchement, je ne crois pas. C'est la seule porte qui s'est ouverte. Je m'y suis engouffré. Je remercie à toujours Sébastien de m'avoir fait de la
Patrick
trek.
Sébastien, en effet.
Ouais, qui m'a littéralement pris, alors que je ne demandais rien d'ailleurs. Et j'ai joué chez lui, enfin, j'ai joué grâce à lui et son meilleur copain, Olivier Guilloux, dont je salue la mémoire. J'ai joué 18 mois. Et au bout de 18 mois, il le savait. J'ai salué à l'Olympia. Je dis, je ne reviendrai plus jamais. Par contre, les sous, je les ai gardés pour faire des films. Je parlais de Brésil tout à l'heure. Quand j'ai vraiment changé un peu d'orientation dans ma vie, c'était pour faire de ça que je voulais. Enfin, essayer de faire ça. Pas Brésil, bien sûr, mais essayer de faire ça. Et la scène, c'était comme les Monty Python fait de la scène, comme Terry a fait des dessins nomades. On n'arrive pas tout de suite comme ça avec une caméra et la confiance en soi et le budget nécessaire pour faire des films. Et là, la scène, je vous dis, j'ai passé un grand moment dessus, mais je ne voulais pas en rester là. C'est un peu un cri primal. Mais les films sont une mise en image de beaucoup de personnages du spectacle. Il n'y a pas de problème.
Le rendez-vous, 10h.
la session.
Albert Dupontel et Michel Faux, on vous retrouve tout de suite, mais avant cela, c'est la session programmée par Mathieu Conquet quotidiennement.
Avec ce soir Lou Marco, une chanteuse qui, comme vous, Albert Dupontel, était très marquée par ceux qu'elle a croisés. Mirwes, d'abord, l'ex-Taxi Girl, qui l'encourage à chanter et à composer. Et puis, elle collabore aussi un peu plus tard avec Nicolas Hassin, critique rock et musicien, disparu en 2008, qui a coécrit plusieurs de ses titres. Elle publie là un premier EP, 6 titres, avant un prochain album pour l'année qui arrive. On est entre un cabaret, une pop sombre et assez électrique, où il est question de hantise, de rédemption, d'obsession amoureuse et d'addiction. Elle est accompagnée de Mathieu Gramoli à la batterie. Le titre, c'est Don't Care. On chausse tous les casques. En direct sur France Culture, Lou Marco. Going down the street, but I don't know where I go. Something's gonna change. I don't wanna go back home. Going down the street, and there's something in the air. I wanna buy a ticket, destination anywhere. Going down the street, and I won't come back.
Going down the street, and I'm feeling strange. Lou Marco en direct sur France Culture. Son album Sous la peau paraîtra le 3 février prochain. C'est Music Unit. Vous pourrez retrouver Lou Marco sur la playlist du rendez-vous sur Deezer.
Vous écoutez quoi, Albert Dupontel, comme musique?
Ça va, je dis au revoir, mademoiselle.
Au revoir, mademoiselle.
Merci beaucoup. Oh, ça a de Led Zeppelin à Mozart. Hein. Y a pas de, j'ai pas de préjugés. Non, voilà.
Et vous, Michel Faux?
Du Wagner.
Oui, bien
l'opéra,
sûr.
L'opéra, beaucoup.
Moi, je suis totalement ringard, donc j'écoute de l'opéra, oui.
C'est pas d'une ringardise.
Non, mais j'aime bien les choses de, un peu extravagantes, un peu too much, donc l'opéra, ça me plaît, évidemment.
Oui, mais la voix chantée, quels opéras,
quel opéra, ouais.
Par exemple, Rameau, c'est pas véritablement extravagant.
Mais Rameau, j'aime beaucoup, mais je peux écouter Alban de Berg, je peux écouter l'opéra Vériste, par exemple, je trouve ça magnifique, je sais pas pourquoi il est méprisé. Non, c'est très, très ouvert.
C'est ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus beau. C'est ce qui est le plus long, qui est le plus intéressant. C'est ce que vous ne trouverez pas amusant, qui est le plus drôle.
Le rendez-vous. C'est sur France Culture.
Je ne vous fais pas dire plateau démesure avec vous, Michel Faux, comédien et metteur en scène. On vient d'entendre dans Le Soulier de Satin de Claudel, mis en scène par Olivier Py, et puis bien sûr dans votre récital emphatique, un souvenir de ce soulier de satin.
Oui, c'était formidable d'aborder Claudel avec Olivier Py, parce qu'il connaissait bien son dossier, en fait. Et surtout, moi, j'avais des scènes de farce, ce qu'on oublie beaucoup. Il y a des scènes de farce chez Claudel. Et j'avais l'annoncier qui dit cette phrase essentielle, là, au début. Et puis, je faisais l'ange gardien, ce que j'aimais beaucoup. Et puis, je faisais l'actrice à la fin. Donc, je faisais que des personnages qui n'existent pas dans la vie, en fait. Parce que j'étais pas une actrice. Et puis, l'ange gardien, il existe, mais on le voit pas. Hein. Donc, je représentais des choses qu'on ne voit pas d'habitude.
Comédien au théâtre depuis le milieu des années 80 pour Jacques Weber, Olivier Py, Jean-Luc Lagasse, Pierre Guillois ou alors Philippe Calvario. Au cinéma, Dominique Moll, Albert Dupontel, Noémie Lvovsky. Metteur en scène de Monterland, Racine, Ibsen, Strindberg, Guitry, côté théâtre, Mozart, Puccini, côté opéra. La mise en scène est arrivée tard, en 2000, avec American Buffalo de David Mamet et puis Thérèse Raquin d'après Zola. Qu'est-ce qui a retardé le passage à la mise en scène, puisque déjà à 20 ans, vous déclariez dans ce cours que vous vouliez être metteur en scène, puisque vous appelez Michel Faux.
Mais j'avais totalement oublié cette histoire de cantatrice chauve, en fait, et ça me touche beaucoup, parce qu'en fait, moi, c'est ça que je voulais faire. Je voulais jouer metteur en scène, mais comme faisait Pete O'F, mais comme faisait Vitesse aussi, comme a fait Mesguy, Chéreau. C'est très récent, cette idée que le metteur en scène ne doit pas jouer. Et en fait, moi, je voulais vraiment faire les deux. Et même au conservatoire, j'avais monté Thérèse Raquin. Et puis, c'est en sortant du conservatoire où on m'a dit « il ne faut pas faire les deux, tu es metteur en scène ou acteur ?» Alors, j'ai monté un spectacle où je ne jouais pas. J'ai été très malheureux, ça a été horrible. Et donc, après, j'ai dit « bon, je ne ferai pas ça ». Et puis, après, j'ai joué avec Olivier Py. Et puis, c'est vraiment après Michel Villermoz qui m'a permis de monter American Buffalo, où je jouais, je mettais en scène. Et puis, Audrey Tautou qui m'a demandé aussi de la mettre en scène et de jouer. Voilà. Et en fait, ça s'est très bien passé, parce que je pouvais choisir mes partenaires, parce que je n'arrive pas à jouer tout seul, donc j'ai besoin d'avoir des partenaires en face de moi. Et puis, j'ai eu tellement de metteurs en scène, parfois, qui n'avaient rien à dire, ou qui étaient incompétents, ou qui ne savaient pas comment un acteur marchait, parce que du coup, je me suis dit, ce sera toujours mieux si c'est moi qui fais la mise en scène. Mais c'est pour ça que je trouve ça très bien qu'Albert joue dans ses films, et qu'il ne fasse pas que comme faisait Orson Welles. Pourquoi on ne pourrait pas faire les deux très longtemps, au théâtre en tout cas, on a fait les deux. C'est très récent cette idée que le metteur en scène... Alors maintenant, surtout avec des metteurs en scène qui ont fait de la philo, qui sont des notables, voilà, mais qui ne savent pas du tout comment ça marche en fait.
Au départ, on a lu les entretiens, mais dès le début, vous avez été assez critique en faire vos metteurs en scène. Dans quel registre on vous a mis dès le départ?
Bon, dans aucun. C'est drôle parce que je me souviens qu'Albert, il a bien galéré. C'est vrai, t'as galéré. Ouais. Hein. Et moi aussi, j'ai bien galéré. On a bien galéré. C'est un chemin de croix pour arriver. On est un peu des, je le dis de façon très vaniteuse, mais on est un peu des héros, quoi. On est des guerriers. Non, mais c'est vrai, on est des guerriers parce que.
Des survivors.
Et je le dis, je suis très très fier de nous. C'est que Albert, il est arrivé à faire ce qu'il voulait faire, et moi aussi, je suis arrivé à faire. Comme quoi, il faut rester fidèle à ce qu'on a dans le ventre, quoi. Mais j'étais trop drôle pour faire du théâtre sérieux, et j'étais trop bizarre pour faire du théâtre de divertissement. Donc les gens, ils n'avaient pas du tout où me caser.
T'aimais beaucoup le boulevard, quoi. Je me rappelle, t'avais une vraie fascination pour le boulevard.
Mais je disais pas, j'étais au conservatoire, j'allais voir toutes les pièces de Maria Pacôme, de Sophie Desmarais, d'Harry Cole, tout ça. J'allais voir tout, mais je le disais pas, évidemment.
Et vous, qu'est-ce qui résistait pour avoir tant d'années de galère chez vous?
Je trouve qu'il est dur parce que ça a duré 4-5 ans, c'est vraiment pas très long, je trouve. Non, moi je voulais faire, je voulais faire mes trucs, effectivement. Si on veut faire comme tout le monde, c'est plus facile. Quand on veut faire son cinéma, c'est plus compliqué, ou ses sketchs.
Anne Farine.
Justement, Michel Faux, à ce sujet, vous dites que c'est très difficile, très rare de trouver des metteurs en scène qui aident les acteurs à être eux-mêmes. Il y en a malgré tout, j'imagine, qui y sont parvenus. Quels ont pu être justement les metteurs en scène qui vous ont aidé dans ce sens-là?
Moi, il y a la rencontre avec Olivier Py, mais Olivier Py, il écrivait, il mettait en scène. Donc c'était formidable. C'est comme quand on tourne avec Albert. Albert, pendant des prises, il vous souffle des choses à l'oreille. Mais là, c'était pareil, on avait l'auteur en direct, donc on savait où on allait, quoi. Donc ça m'a beaucoup apporté. Et puis, je pense, ma rencontre avec Jérôme Deschamps aussi, avec qui j'ai fait un petit spectacle, mais ça a été très, très, très important, ça, c'est vrai.
Quel spectacle avec Jérôme Deschamps?
On avait fait un spectacle sur Courteline.
J'ai vu la veillée, on a vu la veillée, on a été voir l'époque en 86.
Oui, à Nanterre.
Là, c'était extraordinaire, ce spectacle de Deschamps.
Mais Deschamps, c'est un acteur qui met en scène.
Il y avait un TGV qui défonçait la scène. Ouais. J'avais retenu ça, vous voyez. C'est pas le plus subtil du spectacle, mais c'était très comique. Il y avait déjà la bande, il y avait la bande des chiens qui était là. Ouais, c'était un grand souvenir de ce spectacle.
Ouais. Par rapport à votre formation, j'ai pu lire aussi qu'au Conservatoire municipal junior d'Angers, vous dites avoir surtout appris à perdre votre accent.
Oui, c'était à Agen.
Ouais.
Donc il y avait une dame qui s'appelait Madame de Marguerie qui faisait cours en pantoufles, je me souviens, et qui était assise sur la scène et qui nous faisait répéter des fables. Hein, voilà. Donc après, je parlais comme ça au collège et tout le monde se moquait de moi.
Une enfance difficile. Manu.
Alors je ne sais pas à quel moment c'est arrivé justement dans votre formation, mais vous dites qu'il n'y a pas, pour vous en tout cas, qu'il n'y a pas de jeu plus légitime qu'un autre. Et évidemment, vous plaidez davantage pour l'emphase que pour le naturalisme. À quand remonte ce goût-là de l'emphase? Est-ce qu'il y avait des modèles particuliers?
Moi, j'ai été fasciné par les grands acteurs de boulevard comme Jean Poiret ou Maria Paco ou Sophie Desmarais ou Maillan, etc. Et donc, c'était un jeu surréaliste, c'était un jeu excessif. Et puis, j'ai été fasciné par des tragédiennes comme Maria Cazares, Geneviève Page ou Christine Fersen. Et là aussi, c'était un jeu excessif. Et puis après, j'ai aimé l'opéra. L'opéra, c'était surréaliste. Donc, j'ai aimé l'excès. Mais l'excès, ça peut être, il peut être tragique comme il peut être burlesque. Donc j'aimais les choses too much, j'aimais le cinéma de Fellini, j'aimais les choses comme ça. Donc ça remonte au début, quoi, en fait. J'aimais la théâtralité, quoi. Et donc je suis arrivé à Paris en pensant que le théâtre, c'était ça. Alors après, au conservatoire, c'était un peu compliqué parce qu'ils étaient tous...
Quand vous êtes arrivé, c'était pas du tout le moment?
Ah non, c'est les années 80, donc ils étaient tous en imperméable, ils travaillaient du coltès, sans bouger, enfin non. Donc j'étais un petit peu égaré, on va dire.
Par exemple, donc auprès de Michel Bouquet, Gérard de Sarthe ou Pierre Vell, qui étaient vos professeurs à l'époque, ça ne passait pas véritablement, ce goût pour l'emphase?
Si, parce qu'en plus, ils m'ont appris, surtout Pierre Vial et Bouquet, ils m'ont appris que c'était mon humour était intéressant s'il était lié au tragique. Ils m'ont vraiment appris que j'étais un clown tragique, en fait. Moi, au début, je voulais faire rigoler mes copains, et en fait, ils m'ont appris que... Et du coup, Bouquet m'avait fait travailler des héros romantiques, et il me demandait d'être drôle dans le romantisme. Il avait tout compris sur le romantisme, en fait, c'est vrai.
Manu.
Alors excès, toujours, hein, comme metteur en scène, vous êtes souvent dirigé avec une constante, ou presque, en tout cas, vous vous réservez, je pense, au rôle de Néron dans Britannicus, dans le lâche et misanthrope Robert dans Nono de Guitry, le père relativement lâche et collabo dans le Monterland que vous avez monté l'année dernière, Alceste dans le misanthrope en janvier, que vous allez monter avec Edith Scob et Julie Depardieu. Qu'est-ce que ça vous permet d'interpréter ces rôles-là en particulier? Parce qu'on voit bien qu'il y a une sorte de constante, Michel Faux.
C'est très simple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer des grands textes. Vraiment, c'est totalement basique. Et je ne joue que des grands textes. Je n'arrive pas à jouer des textes mineurs. Donc, parce que je trouve ça important, incarner un texte et des personnages, évidemment. Ce qui m'intéresse, c'est la folie humaine. C'est de raconter que l'être humain est imprévisible et qu'il peut être sublime comme monstrueux, quoi. Mais évidemment, ces grands textes parlent de ça, ne parlent que de ça. Et ces textes ne sont pas manichéens, ne sont pas donneurs de leçons, en fait. Ils témoignent du chaos. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est le grotesque et le tragique, quoi. Ça, c'est vraiment...
À propos d'Emphase, pour le récital emphatique que vous aviez monté seul sur scène, entre music hall, cabaret, tour de chant, vous aviez travaillé avec un spécialiste de la diction baroque. Quelles en étaient les caractéristiques ? Qu'est-ce que vous en attendiez ?
C'est un metteur en scène formidable qui a 30 ans et qui s'appelle Benjamin Lazare.
Ah bah oui.
Qui va monter un texte de Rabelais d'ailleurs au théâtre de l'Athénée. Là. Et il est fascinant. Il m'a appris des choses parce qu'il est passionné par la déclamation baroque. Parce qu'on dit toujours, oh, mais on ne sait pas comment c'est pas vrai. Il y a des écrits, il y a des textes. C'est parce que les gens n'ont pas travaillé qui disent on ne sait pas. Mais en fait, il y a des textes sur la déclamation et des textes sur l'alexandrin, sur comment dire un alexandrin au XVIIe siècle. Et c'est fascinant. Et il m'intéressait parce que, pour une fois, c'est un metteur en scène qui ne m'ennuyait pas parce qu'il me disait des choses que je ne savais pas, que je découvrais des choses. Donc,
Qu'est-ce que vous avez appris plus particulièrement, justement, donc, sur cet alexandrin ?
Ça m'a appris qu'à l'époque, la tragédie était jouée un peu comme de la comédie dell'arte. En fait, c'était pas du tout joué sérieux, c'était joué naïf. Ça rejoint ce dont tu parlais tout à l'heure. C'était joué comme des contes de fées maléfiques. En fait, c'était très incarné. Et puis, il jouait certains mots. Ça ressemblait presque à du kabuki ou à de la comédie dell'arte. C'est avec un code de jeu très précis. Et c'est fascinant parce que ça veut dire qu'on est devenu, on en a fait quelque chose de la tragédie sérieuse, mais la tragédie, c'est pas le drame. La tragédie, c'est beaucoup plus proche d'un film comme Alien. Non, mais c'est vrai, je dis toujours, la tragédie baroque, c'est beaucoup plus proche d'Alien que d'un film psychologique, on va dire.
Albert Dupontel, vous l'aviez vu dans ce récital emphatique ?
Ah ouais, j'ai vu deux fois. Ouais. Non, je suis un grand fan de Michel, je le redis. Non, c'était un moment super. Parce que, tu fais des allusions souvent à des cantatrices qu'on ne connaît pas, mais qu'on devine très bien. Et là, comment tu les croques, ça suffit, on les connaît sans les connaître.
Le passage sur Duras, comment vous l'aviez vu ?
Ben, je ne connaissais pas les dessous, mais voilà, je me suis habitué.
Manu ?
Quand vous dites, Michel Faux, que vous avez besoin des autres pour jouer, que vous ne pouvez pas jouer seul, qu'est-ce qui, dans cette forme-là, hein, celle du récital, vous permet de le faire ?
C'est le pianiste, je joue totalement avec lui, en fait. Je joue avec le pianiste, je pourrais pas... Je l'ai fait une fois seul en scène, je trouve ça très difficile, et puis je trouve qu'on devient parano, je trouve que c'est... Et puis, j'arrivais pas trop à gérer le temps tout seul, en fait. Et là, avec un partenaire, ou avec s'il est vraiment là, et puis là, avec le pianiste, on gère le temps. Et...
Comment ça, parano ?
Ah oui, quand j'avais fait un spectacle tout seul, je devenais parano. Je pensais que le technicien qui était à côté ne m'aimait pas. Je pensais que la bande-son était contre moi. Enfin, je ne sais pas comment c'était, toi, Albert.
Moi, je suis déjà parano, donc c'était
oui, oui. C'était formidable.
C'était ma routine.
C'était une confirmation.
Je n'ai aucun préjugé. Je hais tout le monde, donc je détestais tout le monde sur scène. Et voilà, donc je me méfiais. Mais c'est vrai que c'est dur. Ouais. C'est vrai qu'on arrive et les gens n'en ont plus rien à foutre. Mais voilà, c'est un truc particulier. Ouais.
Le rendez-vous. La session.
Session inédite, mais pas vraiment cette période de vacances. Vous allez tout nous expliquer, Mathieu Conquet.
Non, ce soir, on retrouve Lou Marco pour une autre session qu'on avait enregistrée dans nos studios pendant les balances. Lou Marco qui est toujours accompagné de Mathieu Gramoli à la batterie. Il est question d'addiction ici avec Thierry Red. Lou Marco. Dream and sugar all over my
Lou Marco dans nos studios de France Culture. Elle sera en concert le 7 février à la Pêche Café à Montreuil, au Fil à Saint-Étienne le 21 février et le mardi 11 mars au Point Éphémère, c'est à Paris. Son album Sous la peau est prévu pour le 3 février sous le label Music Unit.
C'est l'histoire d'un bourgeois
aussi sobre que je suis outrancier
qui tombe amoureux d'une chèvre.
Pour le temps qui court, c'est un terme péjoratif.
Je suis pas.
Non, t'es pas un bon acteur.
Parce que j'étais pas une actrice.
J'ai rien compris. Merci à nos invités Albert Dupontel et Michel Faux. Je rappelle que 9 mois ferme est toujours sur les écrans. Le DVD va sortir en mars. Et Michel Faux, votre prochaine mise en scène, ce sera Le Misanthrope avec Julie Depardieu. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain.
Je trouvais qu'il y avait quelque chose de bizarre dans son comportement. Il a des moments d'absence, de rêverie, comme s'il pensait à quelqu'un.
Demain, une émission cadeau de Noël, spécial Romer avec Diane Baratier et Noël Herp.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Mathieu Conquet, Manu Farine, Benoît Lagan, Claire Maillot, Xavier Martinet, Aïssa Touendoy et Elodie Royer. Merci à toutes les équipes techniques, à la réalisation Thomas Beau.
Il est 19h54, vous écoutez France Culture, c'est bien.